un podcast RFI.
Jaffa, c'est une localité d'abord connue pour son port, l'un des plus anciens sur cette rive de la Méditerranée. Pendant longtemps, il a été la principale porte d'entrée en Terre Sainte, pour les marchandises et pour les passagers. Jaffa, c'est aussi une ville connue pour ses agrumes, les oranges de Jaffa, exportées dans tout le bassin méditerranéen. En 1948, Jaffa était la plus grande ville palestinienne. Elle est aujourd'hui en Israël, rattachée à la commune de Tel Aviv, le poumon économique, vitrine moderne du pays. C'est là que nous commençons cet épisode. À Adjami, précisément, un quartier du sud de Jaffa, sur le bord de mer. Nous sommes sur un terrain vague qui sert de parking aux gens qui viennent à la plage située juste derrière nous, abrité du soleil sous des palmiers. Devant nous, une série de belles habitations, des constructions modernes qui reprennent certains codes de l'architecture traditionnelle, parfois des colonnes sur la façade, des fenêtres voûtées. Ces habitations sont récentes car le front de mer est prisé, les promoteurs immobiliers y investissent aujourd'hui beaucoup. Il demeure quelques maisons plus modestes toutefois qui sont des vestiges du vieux Jaffa. Ce sont en général des familles arabes qui y habitent. Des maisons souvent défraîchies, avec de petits jardins. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre le chant du coq venir de l'une de ces maisons. J'ai choisi cet endroit pour commencer cet épisode car il est évocateur d'une page de l'histoire des Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne. Je suis Guilhem Deltey, grand reporter à RFI. Vous écoutez Palestinien, épisode 5, carte d'identité, israélien. Durant la première guerre israélo-arabe, plus de 90% des habitants palestiniens de Jaffa ont fui les combats ou ont été expulsés. Ceux qui sont restés ont été regroupés ici. Et dans les premières années d'existence de l'État d'Israël, le quartier a été entouré de clôtures surmontées de fils barbelés pour séparer les habitants palestiniens des habitants juifs. Les Palestiniens avaient besoin de permis pour quitter ce quartier. On parle alors du ghetto d'Adjami. Les photos d'archives montrent ces clôtures et ces barbelés qui passent juste devant les maisons. Même l'accès à la mer, pourtant juste derrière, leur était coupé. Cette page de l'histoire, nous allons désormais la découvrir avec quelqu'un qui habitait à Jaffa en 1948, une mémoire locale. Je retrouve Fayez Abed près du port de Jaffa. Le lieu a perdu son importance commerciale, mais il a été rénové et il est devenu une attraction touristique majeure. Le week-end, ces restaurants ne désemplissent pas. Fayez Abed a effectué une partie de sa scolarité au Collège des Frères de Jaffa. Il parle encore un peu le français, appris dans cet établissement chrétien fondé par des religieux venus de France. Il a plus de 80 ans, mais il marche toujours d'un bon pas et il se lance dans une visite exhaustive de sa ville. Entre reportage et moments de détente, je suis souvent venu à Jaffa. J'ai déjà beaucoup arpenté ses rues, son port, son marché. Mais les explications de Fayez Abed m'aident à comprendre l'ampleur des métamorphoses qui se sont produites. Lui a passé ici presque toute sa vie, il a vu la ville évoluer et même muer. Il est difficile de dire à quel point Jaffa a changé, prévient-il.
Vous voyez les arbres là ?
Oui.
La mer était arrivée jusque là.
Ah oui ?
Toute la maison qui a détruit, on met les, comment on appelle,
les débris ?
Oui, on met là.
Dans la mer.
Oui, ils ont fait la mer et comme la terre.
Entre Adjami au sud et le port de Jaffa, il y a aujourd'hui un grand parc. Des petites buttes recouvertes d'herbes sur lesquelles les familles viennent pique-niquer les soirs ou week-ends d'été. Mais cet espace n'existait pas en 1948. Il a été gagné sur la mer par les débris des maisons détruites après la création d'Israël.
J'ai la photo de mes frères qui a fait la photo.
Nous poursuivons notre promenade, traversons le port vers le nord. Au loin, on voit les tours de Tel Aviv, principal centre économique d'Israël.
Et par là-bas, il y avait des villages palestiniens aussi avant.
Bien sûr. il y avait là peut-être 13 ou 14 villages palestiniens.
Et qui aujourd'hui n'existent plus.
Aucune. Beaucoup de villages arabes, d'ici jusqu'à là-bas, jusqu'à Herselia.
Jusqu'à Herselia.
Herselia autrefois s'appelle Jilil.
Et à quel moment ils ont disparu ces villages? C'est après 1948?
Après, oui, après 1948, il n'y a pas aucun arabe là.
Ijlil est un ancien village palestinien qui était situé à proximité de la localité d'Herzliya, nommé en l'honneur de Théodore Herzl, père du sionisme, mouvement né à la fin du XIXe siècle défendant la création d'un État juif sur ses terres. Ijlil fait partie des villages rasés après la Nakba de 1948, lorsqu'environ 750 000 Palestiniens ont fui ou ont été contraints de fuir. Et la ville d'Herzliya s'est agrandie sur son territoire.
En 1948, pendant la guerre, est-ce qu'il y a eu beaucoup de violence aussi à Jaffa, beaucoup de morts?
Oui. Les Juifs, il y avait trois pièces désarmées. Etzel, Lehi, Haganah. Ici à Jaffa, ils prennent des enfants qui étaient à la mer, les mettre à la mur, et avec les fusils, ils leur tuaient tout. Un d'eux, c'est le frère de mon ami qui était mort là. Et aussi, ils prennent l'argent, comment on appelle, l'or, toutes les choses, comme il fait maintenant à Gaza.
Jaffa, elle, existe toujours. Mais la ville a perdu 95% de ses habitants pendant la Nakba. C'était la plus grande ville du pays jusque-là. Elle comptait 80 000 habitants et 40 000 dans les villages voisins. Seuls 3 000 sont restés. Jaffa a été prise dans les combats qui opposaient organisations arabes et milices juives dès le début de l'année 1948, avant l'indépendance d'Israël. Ses habitants ont fui par bateau ou train vers le Liban ou Gaza. Fayez Abed, âgé de 4 ans, est lui parti avec sa mère et ses frères et sœurs par la route vers l'est. Ils ont été dans le village d'origine de sa famille paternelle, Bir Zeit, aujourd'hui en Cisjordanie, et alors sous contrôle de l'armée jordanienne.
Mon grand-père, ça, mon grand-père, la père de mon père, ma grand-grand-père était né à Bir Zeit.
Au début de la guerre, votre mère est partie avec tous les enfants, dont vous, à Bir Zeit.
Oui.
Et votre père est resté ici à Jaffa.
Mon père est resté là. Nous partions avec ma mère, mon frère et ma sœur. Nous retournons après un an, deux mois. Mon père a fait, comment on appelle, il était là.
Il a fait une demande auprès des autorités israéliennes.
Il était une grande personne ici. Il était bien connu, le chef de l'armée en Jaffa, Avram Yaffe. Et Ishaq Sadeh, il le connaît bien, il a aidé, oui.
2000 personnes ont pu revenir à Jaffa à la faveur d'un regroupement familial. Mais les habitants arabes ont alors été regroupés dans le sud de la ville, dans le quartier d'Adjami.
Quand vous êtes revenu, c'était en 1950?
Oui, le 5 janvier 1950, retourné.
Jaffa, à cette époque-là, était fermé, non? Les habitants étaient enfermés dans
C'était
le...
ghetto.
Ghetto est un terme qui désigne historiquement les quartiers dans lesquels, en Europe, les Juifs ont été contraints de vivre. Il a été repris pour décrire les conditions de vie des Palestiniens de Jaffa dans les premières années de l'État d'Israël. Contraints d'habiter dans un quartier spécifique qui leur avait été attribué par les nouvelles autorités, entourées de fils barbelés. Et toute sortie nécessitait une autorisation.
Pendant combien de temps les habitants de Jaffa ont vécu dans ce ghetto?
2 ans. Depuis 48 à 50. À 50, ils donnaient un peu de liberté. Mais à 1950, j'ai commencé à étudier à l'école. J'étais 6 ans, la première classe. On a étudié l'anglais, un peu de français au commencement. Après 2 ans, on commençait à étudier l'hébreu.
Jaffa a beaucoup changé depuis 1948.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'est pas à dire combien beaucoup. Parce qu'ils ont détruit toutes les maisons qui étaient comme des comme un palais. Tous les toits, c'était avec peinture. Les murs, c'était avec le marbre d'Italie. des colonnes de marbre. Notre maison, ancienne maison, il y avait des marbres de colonnes à la salon. Il n'y a pas aucun maintenant. Il y a ma maison à Birzette, il y a trois colonnes de marbre. Je prends des autres maisons qui sont détruites.
À partir de 1950, les restrictions ont été levées. Mais les Palestiniens n'ont jamais pu regagner leur domicile. Certains avaient été détruits, d'autres réattribués à des migrants juifs fraîchement arrivés. Dans les premières années de l'État d'Israël, ils étaient nombreux, notamment en provenance de pays arabes d'où ils étaient chassés. De Jaffa, je prends la route vers Haïfa. C'est la grande ville du nord du pays, elle aussi sur la côte méditerranéenne. L'une des plus grandes communautés palestiniennes d'Israël vit dans cette ville. Elle compte 35 000 membres. Mais les Palestiniens n'y représentent aujourd'hui qu'un peu plus de 10% de la population. Haïfa est l'une des rares villes du pays où cohabitent juifs et arabes. C'était déjà le cas avant la création d'Israël. Haïfa, c'est la ville de Jafar Farah, un interlocuteur que je connais bien. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises lorsque j'étais correspondant à Jérusalem, car il dirige Moussawa, une organisation qui défend les droits des citoyens palestiniens d'Israël. Je voulais donc le rencontrer à nouveau pour évoquer l'histoire de sa communauté. Il a commencé par me rappeler qu'en 1948, Haïfa a connu un sort assez proche de celui de Jaffa. La ville a conservé moins de 5% de sa population arabe.
Sur les 70 000 Palestiniens qui vivaient à Haïfa jusqu'en 1948, seuls 2500 sont restés. Mon grand-père, par exemple, a passé 2 semaines enfermé dans sa maison, dans le quartier de Wadi Nisnas, dans le centre de la ville. Quand il est sorti de chez lui, il a découvert qu'il avait perdu toute sa famille. La plupart des membres de sa famille ont été contraints de quitter Haïfa en 1948. Le mandat britannique faisait en fait partie de la conspiration. Ils appelaient la population à quitter Haïfa. Il n'y a eu que de petites bagarres ici et là. Mais au bout du compte, nous avons perdu nos familles. Nous avons perdu la plupart de nos biens. Les maisons ont été confisquées par le gouvernement et fermées. Et plus tard, dans les années 50, elles ont été données aux migrants juifs. En fait, nos vies ont été bouleversées.
Autre point commun avec Jaffa, les quelques familles palestiniennes restées ont été regroupées dans un même quartier, Wadi Nisnas, entraînant de nouveaux déplacements de force.
Les personnes qui sont restées dans d'autres quartiers ont été forcées de quitter leur maison et ont été déplacées à Wadi Nisnas. Et dans les immeubles, s'il y avait des logements vides, les familles palestiniennes ont été forcées de partager leur maison avec les familles juives qui sont arrivées dans les années 50. La vie était totalement différente. Avant 1948, nous étions majoritaires et il y avait un système de coexistence. Par exemple, le maire était musulman, mais il avait un adjoint chrétien et un adjoint juif. En 1948, le parti travailliste a pris le contrôle de la ville. Et ils ont tout de suite essayé de montrer que la situation avait retrouvé une normalité. Ils ont donc cherché des collaborateurs dans la communauté palestinienne susceptibles de travailler avec eux. Beaucoup de gens ont été victimes de chantage parce que tout le monde voulait que son fils revienne, ou que sa mère revienne, ou que son mari revienne. D'une manière ou d'une autre, à partir de ce ghetto, il y a eu une certaine coopération entre la communauté palestinienne de Haïfa, dans une large mesure, et les dirigeants juifs immédiatement après la fin de la guerre. L'objectif principal était d'essayer de reconstruire les familles qui avaient été divisées en un jour. Nous parlons donc des besoins humains dont ont abusé les forces de défense israéliennes et les partis politiques de Haïfa pour forcer la communauté arabe à collaborer avec les organisations sionistes dans la ville.
À quel moment les Palestiniens qui étaient restés à Haïfa ont obtenu la nationalité israélienne ?
Pour la majorité, ce fut en 1949 et 1950. Mais ça a été un processus de lutte. La décision n'a pas été immédiate. Il a fallu du temps pour que le gouvernement israélien décide de ce qu'il fallait faire avec les Palestiniens restant en Israël. Ainsi, dans certaines régions, vous pouvez voir que des cartes d'identité ont été données à des Palestiniens et d'autres Palestiniens l'ont eu plus tard. Et il y a eu beaucoup de regroupements familiaux aussi. Dans mon cas, par exemple, ma mère venait d'un village appelé El Aboun. El Aboun a été déporté et ils ne sont revenus que dans les années 50. Il a fallu près de 2 ans pour les autoriser à revenir et ça a été le fruit d'une pression internationale. Il s'agissait d'un village chrétien et il y avait beaucoup de questions sur un massacre qui avait été perpétré devant l'église. C'est donc par accident que mon grand-père est revenu dans les années 50. La décision n'a donc pas été prise en un jour, ce fut un processus de lutte. Malheureusement aussi, en 2003, toute cette unification familiale a été gelée et il y a eu beaucoup de familles divisées jusqu'à aujourd'hui.
Les Palestiniens ayant la nationalité israélienne représentent environ 20% de la population du pays aujourd'hui. En tant que minorité apparentée à l'ennemi, leur rapport à l'État se définit en grande partie par la lutte. Et la propriété foncière a été l'un des grands sujets de confrontation. Un tiers des Palestiniens d'Israël sont des déplacés internes, chassés de leur village. Et l'État a continué à s'approprier des terres dans les décennies suivantes.
Nous voici à présent à Sakhnin. Sakhnin, c'est une ville du nord d'Israël, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Une ville arabe-israélienne, comme tant d'autres finalement, des immeubles plutôt bas, de quelques étages, des rues assez étroites, à l'exception de la rue principale au bord de laquelle nous nous trouvons, où là, la circulation est continue. Nous sommes venus ici pour évoquer une page de l'histoire de la ville qui a marqué les relations de l'État d'Israël avec ses citoyens palestiniens. Pour cela, on pousse la porte du cimetière. On est venu dans ce cimetière car il y a en son centre une sculpture d'un style plutôt moderne dans les tons blanc-gris. Elle fait 3 mètres de haut environ, 4 mètres de long à peu près. C'est en fait un monument de commémoration car le 30 mars 1976, 6 personnes ont été tuées par les forces de sécurité israéliennes dans un mouvement de protestation. La sculpture représente sur l'une de ses faces une personne inanimée sur le sol. À côté, une femme et un homme qui pleurent. Sur une autre face, on peut voir là encore une personne morte au sol et 2 femmes qui cultivent à côté la terre. Il y a également cette inscription écrite en arabe. Ils sont morts martyrs pour que nous puissions vivre. Ils sont vivants. Pour évoquer cette page de l'histoire de Sakhnin, nous allons rencontrer désormais une personne qui était là le 30 mars 1976. Qui a participé à ce mouvement de contestation.
Salam alaikum.
Alaykoum salam, ala wa sahla.
Majid Abou Younes est un homme politique. Aujourd'hui, il est membre du Front démocratique pour la paix et l'égalité, un parti politique communiste dont l'électorat est principalement au sein de la communauté arabe d'Israël. En 1976, il avait 26 ans. Il était un jeune militant.
Avant la journée de la Terre, il y a eu une série d'événements cumulés et qui ont conduit à la journée de la Terre. Dans toutes les régions, du nord au sud, il y a eu des confiscations de terres appartenant à la communauté arabe. Le gouvernement israélien avait pour objectif de dépouiller tous les Arabes de leurs terres. Et notre région ici, entre les communes de Sakhnin, Araba et Darhanna, a été particulièrement ciblée. On l'appelle d'ailleurs le triangle du jour de la terre. En 1964, par exemple, ils ont confisqué des terres dans la partie sud de ce triangle. Et ils y ont construit l'usine militaire Rafael. Ces terres, elles étaient la propriété privée des habitants de la région, des habitants de Sakhnin. Toujours dans les années 60, il y a eu la confiscation de milliers d'hectares de la plaine de Batouf, qui appartenait, elle aussi, à plusieurs villages, Sakhnin, Araba, Lebaïni, Aïlaboun, Romani, Lazer et Kofrmed. Une très belle plaine en altitude où des familles vivaient de l'agriculture. Ils ont construit un canal d'irrigation de 94 mètres de large pour alimenter les fermes dans le désert du Negev, à l'autre bout du pays. Ils auraient pu autoriser les agriculteurs palestiniens à bénéficier eux aussi de l'eau passant par leur terrain. Mais ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. Des terrains ont été confisqués pour la construction du canal, mais nous n'étions pas autorisés à utiliser l'eau.
En 1976, le gouvernement travailliste prévoit l'expropriation de 2000 hectares de plus en Galilée, région fertile du nord du pays, pour établir de nouvelles localités juives et pour des raisons militaires. Environ un tiers de ces terres appartenaient à des localités arabes. Pour cette communauté, c'est l'expropriation de trop.
À ce moment-là, nous avons compris que ça devenait insupportable et qu'il fallait réagir. Il fallait à tout prix résister à ce projet parce qu'il était dangereux. Il visait à confisquer des terres qui nous servaient pour l'agriculture, mais d'autre part, qui constituaient une réserve foncière sur laquelle nous aurions pu agrandir la ville pour les générations futures.
L'idée d'une grève générale, annoncée pour le 30 mars 1976, est alors née. Dans la région de Sakhnine, la mobilisation s'annonçait massive. Majed Abou Younes se souvient que les partis politiques arabes israéliens incitaient les habitants à y participer. Lui-même a fait campagne pour ce mouvement sur son lieu de travail. Le gouvernement a alors envoyé des lettres de mise en garde, voire d'intimidation aux élus locaux, assure Majed Abou Younes. Sans succès, le 30 mars, la grève générale a eu lieu.
Dans la soirée du 29 mars, les forces sont entrées dans un des quartiers de Deir Hanna, à l'est d'ici. C'est là que les affrontements ont commencé. Dans un premier temps, les nouvelles de Deir Hanna ont commencé à arriver à Arabi, qui était plus proche. Puis, lorsque la nouvelle a commencé à arriver à Sakhnine, les jeunes hommes qui avaient une voiture sont partis vers Deir Hanna. On savait tous que cela ne se limiterait pas à Deir Hanna et qu'ils atteindraient Arabi puis Sakhnine. Nous nous sommes tous sentis visés, nous avons donc dû nous serrer les coudes. Moi, par exemple, je suis allé à Arabi. Je n'avais pas de voiture, mais je suis parti avec un ami qui en avait une. Nous avons été voir des gens qu'on connaissait sur place. Ils m'ont dit que les routes étaient fermées. Alors je suis revenu ici. Nous sommes arrivés là où il y a le rond-point, là-bas. À l'époque, il n'y avait pas tous les bâtiments, c'était des terrains non bâtis. Et pour la première fois, les jeunes ont pris les pierres dans ces terrains et ils ont bloqué la rue. Puis nous sommes allés à côté, à la vieille mosquée. Nous sommes rentrés dedans et nous avons utilisé le haut-parleur pour appeler la population à rejoindre la grève générale. Moi, je suis ensuite allé à la mairie, dans la rue principale. Il y avait une mare où le bétail pouvait s'abreuver. Nous marchions et nous sommes arrivés à la main. L'enthousiasme de la jeunesse a disparu d'un coup quand nous avons vu les blindés arriver par l'est. La confrontation avec l'armée a commencé là-bas avant de s'étendre.
Les manifestants jetaient des pierres et cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui répliquaient par des tirs. Un couvre-feu a été instauré, mais la confrontation a duré jusqu'au matin suivant, se souvient Majed Abou Younes. Au total, 6 personnes ont été tuées, des centaines blessées, et de nombreux autres arrêtés.
Bien sûr, ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé pendant la nuit, que les gens soient sortis, qu'ils aient eu le courage de les affronter. Il y a eu des blessés de deux côtés. Le matin, les forces israéliennes sont donc revenues avec des listes de noms, des noms de gens connus pour leur implication politique notamment. Ceux qui étaient chez eux ont été arrêtés. Ils ont fait des descentes dans les maisons et ils ont rassemblé toutes les personnes arrêtées sur le rond-point, là où il y a aujourd'hui le mémorial aux martyrs de 1976. Ils y ont rassemblé tous les détenus, même un professeur d'école. Lui s'inquiétait de perdre son travail et il était sur le chemin de l'école. Ils l'ont quand même arrêté. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés ce jour-là et ont été envoyés dans les centres de détention.
Majed Abou Younes, lui, a échappé à l'arrestation car il était allé se cacher à l'extérieur du village. Un peu plus loin, le long de la rue principale, se trouve un imposant bâtiment de 5 étages. Sur sa façade, une inscription en hébreu et en arabe indique qu'il s'agit de la mairie. Je grimpe les escaliers vers les étages supérieurs et frappe à la porte du bureau du maire, Mazner Naïm.
Bonjour, monsieur le maire.
Merci
de nous recevoir dans votre mairie. On vient d'évoquer assez longuement les événements du 30 mars 1976. C'est un événement qui reste très présent dans la mémoire collective des habitants de Sakhnine.
Bien sûr, c'est un événement qui reste gravé dans nos mémoires.
Nos jeunes gens et nos filles ont été martyrisés, détenus et blessés. Cela nous a appris la valeur de la terre de nos pères et de nos grands-pères, cette terre si importante que nous devons préserver. Naturellement, l'objectif d'Israël était de confisquer ces terres afin d'y construire des localités juives. La majorité des localités juives autour de Sakhnin a été construite sur les terres de Sakhnin. Il semblait avoir oublié qu'il s'agissait de la terre de nos grands-pères et de nos pères que nous sommes censé préserver et transmettre, si Dieu le veut, à nos enfants et petits-enfants.
Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de confrontation comme ça entre les citoyens palestiniens d'Israël et l'État israélien, le gouvernement israélien ?
Bien sûr, lors des rassemblements pour défendre la mosquée Al-Aqsa durant la seconde intifada, il y a eu deux martyrs ici à Sakhnin. Deux jeunes hommes ont été martyrisés pour la défense de nos valeurs sacrées islamiques et chrétiennes et pour la défense de notre terre. La journée de la terre en 1976, puis octobre 2000. Les problèmes de notre peuple à Gaza, en Cisjordanie, dans les camps, partout, ça nous concerne.
L'importance de la journée de la terre dépasse le cadre de la communauté des Arabes israéliens. Plusieurs décennies plus tard, elle est commémorée tous les ans, le 30 mars, en Israël, mais aussi en Cisjordanie et à Gaza. Pour les Palestiniens, où qu'ils soient, c'est un mouvement de résistance nationaliste. Avant de se lancer en politique, Mazen Ghanaim était dans le football. Il a été joueur, puis président du club de la ville, le Bnei Sakhnin. Un poste auquel il a connu de grands bonheurs, un jour, fait particulièrement sa fierté.
Le 18 mai 2004 était un jour historique. On m'a demandé à l'époque ce que cela signifiait pour moi d'avoir gagné la Coupe nationale. D'autant que Sakhnin est une petite ville, mais elle s'est donné les moyens de sa réussite et elle a marqué l'histoire de la société arabe. Je leur ai dit, c'était notre destin, nous avons pu transformer le rêve en réalité. Et Dieu soit loué, maintenant les médias locaux, les médias internationaux savent où se trouve Sakhnin. Sakhnin est une petite ville qui a les moyens de ses ambitions. Je crois que la civilisation d'un pays se mesure par son peuple et ses institutions. Et le club de Bnei Sakhnin est l'une des institutions les plus importantes, puisque c'est grâce à cette équipe que nous avons pu mettre Sakhnin sur la carte. De nombreux films, articles et livres ont été faits sur ce succès. J'en suis donc, sans aucun doute, très fier, et j'espère que ce n'était pas la dernière victoire et que je pourrai en vivre une autre.
Le Bnei Sakhnin a été le premier club arabe à remporter la Coupe d'Israël. Pour rencontrer des supporters de l'équipe, je pousse la porte d'un café, un bar à chicha où on vient pour fumer ses grandes pipes à eau orientale, installées dans de larges fauteuils en buvant un jus de fruits, un soda ou du thé. Sur les murs de ce bar, de grands écrans dans tous les coins, et les télévisions sont branchées sur une chaîne de football. C'est un lieu qu'affectionnent les habitants pour venir voir les matchs quand ils ne vont pas au stade. Abdallah El-Bissani est un jeune homme, dans la trentaine, et la soirée du 18 mai 2004 reste gravée dans sa mémoire.
Bien sûr, c'est une journée inoubliable. La joie était immense. On n'a pas dormi cette nuit-là. La fête a duré jusqu'au lendemain matin. Je me souviens même que les gens des villes de l'intérieur du pays sont venus à Sakhnin et ont fait la fête avec nous, comme si on avait remporté une grande victoire. On aurait dit qu'on avait gagné la guerre. L'équipe nous rend fiers d'appartenir au peuple arabe, fiers de pouvoir réussir. Car les politiques en place dans ce pays font que nous sommes colonisés. On subit beaucoup de pression et avoir des victoires dans ce domaine-là, ça nous aide à nous sentir un peu libres.
Le Bnei Sakhnin, c'est notre vie, notre histoire, notre personnalité, acquiesce à ses côtés le patron du café. Le club fait la fierté de la ville, mais aussi de bon nombre de Palestiniens d'Israël. C'est le club arabe qui a le plus de succès et son soutien dépasse les limites de la ville. Mais pour Abdallah El-Bissani, les autorités israéliennes tentent d'utiliser ce succès, cette popularité, pour servir leurs intérêts.
Le succès a été exploité politiquement. La politique israélienne vise à jouer sur le sentiment d'appartenance, à détourner les jeunes des questions nationales importantes, comme la journée de la terre ou la journée de la Nakba.
Les autorités israéliennes tentent d'utiliser le football pour essayer d'éteindre les expressions de l'identité palestinienne.
Bien sûr, c'est un moyen de lutte politique, sans art. Il s'agit de détourner l'attention de l'opinion publique vers des sujets qui ont peu d'importance pour faire oublier ce qui compte vraiment.
Le Bnei Sakhnin est un club professionnel. Ses recrutements ne sont pas basés sur des critères communautaires et il compte dans ses rangs des joueurs juifs, israéliens et étrangers. Mais il reste perçu comme un club arabe et les relations avec les supporters des autres clubs peuvent être difficiles. Ceux du Betar Jérusalem et du Maccabi Tel Aviv sont majoritairement de droite, voire d'extrême droite. Face au Bnei Sakhnin, il n'est pas rare d'entendre de leur tribune des slogans comme « Le prophète Mahomet est mort » ou « Mort aux Arabes ». Face à eux, les supporters de Sakhnin entonnent « Avec notre sang, avec notre âme, nous défendrons la Palestine ». Il arrive que l'hymne national soit sifflé ou des joueurs qui servent dans l'armée huées. Et hors du stade, le face-à-face peut devenir violent.
Vous avez eu vous-même des difficultés déjà ?
Oui, bien sûr. Lors de la dernière journée du championnat, il y a 2 semaines, je suis passé près du stade pendant un match contre Tel Aviv. Une dispute a éclaté entre les supporters des deux équipes. Moi, je passais juste par là. Mais les supporters de Tel Aviv ont tapé sur ma voiture et cassé le feu arrière. Ils m'ont attaqué parce que ma voiture est rouge et que le rouge est aussi la couleur de l'équipe de Sakhnin. Le pire, c'est que les policiers qui les aient accompagnés ne les ont pas empêchés de m'agresser. Ils m'ont maintenu au sol et ils m'ont battu. À la fin, ils m'ont dit d'aller me plaindre. Mais porter plainte n'est pas une option. Nous le savons, nos droits sont violés dans ce pays. Ils ont maudit le prophète Mahomet, la religion et les Arabes. Ils ont prononcé des paroles obscènes envers les Arabes. C'était une provocation. Ils étaient en colère contre moi, mais je n'avais rien fait. En fin de compte, c'est un match qui était sans enjeu pour le classement. Mais ce qui s'est passé montre la haine qu'ils ont dans leur cœur, surtout depuis le début de cette guerre qui a éclaté en terre de Palestine avec les Juifs.
Après le 7 octobre 2023, l'attaque meurtrière du Hamas sur le territoire israélien et la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, les relations intercommunautaires se sont dégradées. Et lorsque le Bnei Sakhnin joue, le conflit israélo-palestinien peut rapidement faire son apparition dans le stade.
Nos familles à Gaza sont palestiniennes. Mon grand-père avait un passeport palestinien, une carte d'identité palestinienne. Nous sommes des Palestiniens. Le fait qu'Israël et le projet sioniste, depuis leur existence, ne reconnaissent pas notre identité, cela ne signifie pas que nous sommes français ou allemands. Cela ne fait pas de nous quelque chose d'autre.
Sami Abou Shehadeh est un responsable politique, chef du parti Balad, une formation de gauche, et qui défend un nationalisme palestinien sur la scène politique israélienne. Il a été élu à la Knesset, le Parlement. Cette affirmation identitaire est largement partagée au sein de la communauté arabe israélienne. La carte d'identité ne définit qu'une réalité administrative, pas culturelle. La dénomination d'arabe israélien est d'ailleurs contestée, parfois rejetée. Beaucoup préfèrent des qualifications qui reconnaissent leur identité palestinienne, comme « palestinien de 48 », en référence à l'année de la création d'Israël, ou « palestinien de nationalité israélienne ». Une affirmation identitaire qui vient de l'histoire, mais qui se nourrit aussi d'une réalité contemporaine, juge Sami Abou Shehadeh. Car la nationalité n'offre pas les mêmes droits aux citoyens arabes et juifs, estime-t-il.
La situation est très compliquée et c'est difficile de l'expliquer à un public étranger, car en Occident, on voit Israël comme un État démocratique. Mais cela ne correspond pas du tout à la réalité. Nous ne sommes même pas des citoyens de seconde zone. Sur la plupart des sujets importants, notre citoyenneté n'est pas du tout prise en compte. Où est-ce qu'on voit les différences ? Où est-ce qu'on voit le racisme en Israël ? Les gens devraient savoir que 90% de la population israélienne vit dans la séparation raciale. Il y a des zones réservées aux Arabes et des zones réservées aux Juifs. Toutes les grandes villes d'Israël sont uniquement juives, 100% juives. Ramat Gan est 100% juive. Et Rishon LeZion est 100% juive. Tel Aviv est 100% juive. Nous vivons donc dans la séparation raciale.
Seule nuance à ce tableau, Haïfa, où nous étions au début de cet épisode, elle fait exception parmi les plus grandes villes israéliennes. Elle est le foyer d'une petite minorité palestinienne.
Faites des comparaisons dans n'importe quel domaine, la santé, les transports, les infrastructures, les universités. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets. Nous avons un train en Israël. Il y a des dizaines de gares dans tout le pays. Combien de gares y a-t-il dans les régions arabes ? Aucune. Si nous parlons de questions de santé, il y a des dizaines d'hôpitaux dans tout l'État. Il y a des dizaines d'hôpitaux dans l'État d'Israël. Ils ont été créés par l'État israélien. Combien d'hôpitaux israéliens ont été construits dans une ville arabe palestinienne à l'intérieur d'Israël ? Aucun. Vous savez, nous sommes 1,7 million à vivre dans l'État d'Israël. Nous n'avons pas une seule salle de cinéma dans nos villes qui diffuse des films arabes. Mon grand-père à Jaffa avait 8 salles de cinéma différentes avant la guerre de 1948. Mon grand-père ici à Jaffa, avant la guerre de 1948, eh bien, il avait 5 hôpitaux différents qui pouvaient s'occuper de sa santé. Je n'en ai aucun.
Le lieu que Sami Abou Shahadeh a choisi pour notre rencontre fait office d'espace culturel du quartier. C'est avant tout un café et une librairie qui vend des livres en arabe et en hébreu. Le local n'est pas grand, un comptoir, quelques tables, une petite terrasse. Mais malgré l'exiguïté des lieux, des concerts et des projections de cinéma sont aussi organisés de temps en temps. Cet endroit est cher à Sami Abou Shahadeh, car il aide à préserver l'histoire palestinienne de Jaffa, menacée d'effacement, juge-t-il.
Nous sommes très près de la vieille ville de Jaffa. Elle est à 100 mètres au nord. C'est le deuxième lieu le plus touristique après la vieille ville de Jérusalem dans tout l'État d'Israël. Vous pouvez maintenant y aller seul. Regardez les panneaux qui s'y trouvent. Allez au centre d'accueil des visiteurs pour visiter le musée. Vous pouvez visiter toutes les galeries d'art qui existent. Il y en a beaucoup. Vous ne verrez Palestine ou Palestiniens nulle part. Il n'y a que de très petites tentatives faites par des Palestiniens, mais c'est très marginal, très marginal. Ils se battent en permanence pour nous faire disparaître.
La vieille ville de Jaffa est construite autour du port. Elle domine la mer sur une petite colline et de jour comme de nuit, le clocher de l'église Saint-Pierre à son sommet se détache de l'horizon. Ses habitants ont été expulsés lors de la guerre de 1948. Aujourd'hui, le vieux Jaffa a été entièrement rénové par la municipalité et il est devenu un quartier d'artistes. Mais un quartier sans les descendants de ses occupants avant 1948. Adriyeh Abou Shahadeh est justement l'une de ces jeunes qui tentent de faire vivre la Palestine au cœur de la vieille ville de Jaffa. Elle est une cousine de Sami Abou Shahadeh. Nos deux parcours ont été inspirés par la vie et les enseignements de notre grand-père, dit-elle. Dans ce haut lieu touristique, elle y tient le seul magasin d'artisanat palestinien.
Vous trouverez ici une collection changeante d'objets différents, à la fois d'artisanat traditionnel et de design contemporain, réalisés par différents artisans palestiniens. Vous trouverez donc des céramiques peintes à la main, des bijoux d'artistes locaux, de partout, de Bethléem à Nazareth, de la calligraphie arabe, du verre soufflé à la main, pour lequel la Palestine en général et Hébron en particulier sont très réputés, et il y a aussi beaucoup de broderies.
Adriyeh Abou Shahadeh avait d'abord ouvert son magasin juste à l'extérieur de la vieille ville. Mais le loyer est devenu trop cher. Elle a donc dû fermer le Hillway Market et chercher un autre emplacement. C'est finalement dans le vieux Jaffa qu'elle a pu rouvrir grâce à un bail signé avec la mairie.
C'est ma façon de créer un espace, ma façon d'une certaine manière de résister, résister à l'effacement, résister à l'exclusion que nous subissons, nous, Palestiniens de Jaffa, Ce nouvel emplacement et l'ancien sont tous deux situés dans des quartiers historiquement palestiniens. Dans l'ancien emplacement, nous avons été déplacés à cause de l'embourgeoisement. Et ici, les Palestiniens ont été chassés pendant la guerre. Il s'agit donc de deux espaces dont nous avons été activement chassés. D'un point de vue émotionnel, c'est donc difficile de revenir dans ces espaces. Mais c'est difficile aussi au quotidien. Parce que vous voyez ce que j'essaie de faire ici, mais les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'essaie de faire le voient aussi. Et nous sommes souvent attaqués par des clients qui viennent ici et qui sont offensés par l'espace. Des journalistes sont venus m'interviewer à propos du magasin et ils m'ont demandé si je trouvais provocateur de prononcer le mot « palestinien ». Je dois donc faire face à cela. C'est une tâche difficile. Mais je me dis que tant que je peux continuer à faire ça, ici, c'est un peu ma mission. C'est ce que je veux faire. Je veux continuer à lutter contre l'effacement et à créer ces espaces.
Adrieh Abouchehadeh a conçu l'ouverture de ce commerce comme un geste politique, une nouvelle étape dans un parcours d'éveil politique commencé très tôt.
Déjà en tant qu'enfant, vous pouvez voir les espaces dont vous étiez exclu, la langue de l'État dont vous étiez exclu, les privilèges dont vous étiez exclu. Dès l'âge de 13 ans, on m'interrogeait à l'aéroport. L'éveil a donc été assez précoce. J'avais 13 ans et je voyageais avec d'autres Israéliens. Et déjà à cet âge, je voyais qu'on me posait des questions différentes, que je recevais un traitement différent. Donc ici, l'éveil politique se fait très tôt.
Adrieh Abouchehadeh s'autorise rarement à rêver. À chaque fois qu'on a le sentiment que la situation s'améliore un peu, en réalité elle empire, explique-t-elle. Mais elle nourrit tout de même quelques rêves.
Nous vivons dans une situation inégale. Sur l'ensemble du territoire, en Israël et en Palestine, nous vivons sous une même autorité, mais avec un système de droits différent. Il y a probablement 3 ou 4 systèmes de droits différents. Et mon rêve, c'est que le reste des Israéliens le voient. Mon rêve, c'est que le reste du monde le voit. C'est seulement ça que les gens ici veulent. Ils ne veulent pas seulement vivre ici, ils veulent vivre ici en tant que personnes libres. Ils veulent vivre ici sans occupation. Ils veulent vivre ici sans avoir besoin de rêver de la mer quand elle est à une demi-heure de là, sans avoir besoin de rêver de leurs parents à Gaza quand ils sont à une demi-heure de là. C'est de cela que je rêve. Je rêve d'un endroit sans ses frontières, sans ses séparations.
C'est avec ce rêve d'Adrieh Abouchehadeh que se termine cette série audio en 5 épisodes. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les Palestiniens, leur histoire, leurs conditions de vie et leurs aspirations. Ce même rêve de liberté, de justice et de réunification formulé par Adrieh et entendu aussi dans la diaspora, en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza, après plusieurs décennies d'un combat national qui n'a toujours pas abouti. Palestinien, c'est une série originale de RFI. Coordination éditoriale, Steven Jambeau, Antoine Bonnet, Marie Normand. Réalisation, Simon De Creuse, Aurèle Charlieu, Mel Guyot. Prise de son, Nicolas Benita. Remerciements à Nicolas Falaise, la sonothèque de RFI, et surtout toutes celles et ceux, témoins et acteurs de cette histoire, qui ont accepté de se raconter. شفت واحد واقف جنبي